Radio Kapi.
Pour démarrer cette édition de journal, nous allons vous parler en premier de cet accident survenu ce jeudi au niveau du pont Maïndombé sur la nationale numéro 1 et qui a tué 3 députés provinciaux du Kwilu. Cette jeep en partance pour Kinshasa a transporté 11 personnes, parmi lesquelles on signale un rescapé, bilan encore provisoire. L'actualité n'est pas si reluisante ce jeudi avec des cas de perte en vie humaine ça et là. Nous revenons dans ce journal du soir sur l'incendie qui a touché un dépôt de carburant hier à Debonhom. Le bilan en ces jours fait état d'un jeune garçon mort, 8 personnes brûlées, 5 maisons endommagées et 7 véhicules incendiés dont 2 poids lourds. Nous parlons hygiène féminine dans ce journal avec notre invitée Antonia Kindanda, promotrice et présidente de la fondation Antonia Kindanda. Cette fondation sensibilise les jeunes filles et femmes du Maniema sur des bonnes pratiques hygiéniques. Restez branchés pour en apprendre davantage, fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de ce journal, Billy Yvan Lutumba. 3 députés provinciaux morts et un rescapé, c'est le bilan provisoire d'un accident survenu au pont Maïndombé sous la route nationale numéro 1 ce jeudi. L'information est confirmée par le professeur Jean-Claude Bouanganga, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la province du Kwilu. En attendant d'autres précisions, il a indiqué qu'il y aurait 11 personnes qui étaient dans la jeep, parmi lesquelles 4 députés provinciaux du Kwilu. On écoute le professeur Jean-Claude Bouanganga, joint avant midi par Alain Hirong au moment où il s'est rendu sur les lieux du drame en compagnie du gouverneur du Kwilu.
Effectivement, selon les informations qui sont à notre disposition, il y a eu 4 députés provinciaux qui ont embarqué dans une jeep 4x4 Land Cruiser pour Kinshasa avec quelques autres personnes à bord. Donc en tout, il y avait 11 personnes dans le véhicule et ils sont arrivés à la hauteur de Maïndombé. Il y a eu beaucoup de brouillard et leur véhicule se retrouvait dans le ravin. En tout, il y avait 4 députés. Comme je l'ai dit tantôt, il y avait le député Gatola, le député Nkoussou, le député Ndiba et le député Ifumu. Le député Ifumu, c'est le propriétaire du véhicule. Le député Gatola s'est retrouvé vivant, donc c'est le rescapé. Il est maintenant pris en charge au niveau de l'hôpital Mutombo. Maintenant que je vous parle, je suis moi-même avec le gouverneur de province en train d'avancer vers les lieux du drame.
Par rapport à cet accident, vous aurez d'autres précisions sur ce drame dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de cet incendie d'hier. Un jeune garçon mort, 8 personnes brûlées, 5 maisons endommagées et 7 véhicules incendiés dont 2 poids lourds. Tel est le bilan de l'incendie survenu hier d'un dépôt de carburant au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Priscilla Badjoko était sur place, suivait son reportage.
En arrivant sur le lieu de l'incendie, on ne voit plus que de la fumée qui continue à se dégager des décombres. Cependant, plusieurs témoins ont déploré le fait qu'en lieu et place de secourir les sinistrés, certains jeunes se sont plutôt mis à voler leurs biens. On écoute cet habitant.
Le monde est méchant. Au lieu de nous secourir, ils ont trouvé là une occasion pour nous voler. Ils ont volé les biens matériels dans ces 5 différentes parcelles.
Il a fait ce qu'il y a 4 ou 5 parcelles.
Très touchés par ce drame, les habitants demandent aux autorités compétentes de localiser tous les autres dépôts de carburant présents dans le quartier.
Le gouvernement ne devrait pas accepter ce genre de dépôts dans des quartiers résidentiels comme les nôtres. Qu'on délocalise ces dépôts afin de nous éviter des blessés et des morts.
Signalant que les familles sinistrées ont reçu une visite de compassion du chef de l'État.
Dès son arrivée à Kinshasa, Félix Tshisekedi visite les sinistrés de l'incendie de Debonhom. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a regagné Kinshasa ce jeudi 17 mars après 10 jours passés à Bruxelles. Le couple présidentiel a été salué par un comité restreint d'accueil constitué du Premier ministre, des présidents des deux chambres, du Parlement, du gouverneur de la ville de Kinshasa et du secrétaire général de l'UDPS. Le chef de l'État s'est arrêté un temps à la sortie du terminal présidentiel pour saluer les militants et sympathisants mobilisés depuis les premières heures de la journée. Informé de l'incendie qui a causé d'énormes dégâts matériels et pertes en vies humaines la nuit du mercredi 16 mars à Debonhom, un quartier situé le long de la route de l'aéroport, le couple présidentiel s'est arrêté pour constater les dégâts et apporter le premier réconfort aux sinistrés. Il a échangé avec le père d'une des victimes, un enfant de 14 ans, et a obtenu aussi des explications supplémentaires des autorités urbaines sur les circonstances de ce drame. Cette autre nouvelle dans la province du Haut-Lomami, l'hôpital général de Luena à Bukama accueille une vingtaine de blessés du déraillement survenu à Kintenta, non loin de Luboudi, dans le Lualaba. D'après l'administrateur du territoire de Bukama, l'hôpital de Luena a reçu du gouvernement du Haut-Lomami un lot important de médicaments pour les soins des accidentés. Cependant, leur prise en charge alimentaire pose problème, surtout que la plupart des blessés n'ont pas de famille sur place, d'où son cri de détresse au gouvernement, car son entité est dépourvue des moyens. Trudon Lengue, administrateur du territoire de Bukama, est au micro de Jean Gandou.
La province nous a amené les lots de médicaments selon l'état des besoins que nous avons établi. La plus grande difficulté, c'est la prise en charge en termes de nourriture pour les accidentés dont leurs membres de famille sont dans l'espace Grand Kassai. Il y a certains enfants qui ont moins de 10 ans, dont leurs papas sont décédés sur les lieux d'accident. Ils n'ont pas quelqu'un pour leur donner la nourriture. Les territoires étant déconcentrés, n'ayant pas les moyens nécessaires ni les budgets pour s'occuper de la vie de ses compatriotes congolais qui se retrouvent dans la détresse. Ce que nous pouvons demander au gouvernement de la République démocratique du Congo, de soutenir les gouvernements provinciaux afin que nous puissions avoir les moyens nécessaires pour prendre en charge ces malades qui sont à l'hôpital de la Jekamine Luena. C'est tous les enfants dont leurs parents sont décédés. Et il y a les interventions chirurgicales qui doivent être faites. Ceux-là qui vont se rétablir doivent être maintenant retournés dans leurs familles respectives. Aussitôt que le ministre de la Santé est parti, on nous a encore déféré d'autres malades, toujours les accidentés dans les cas graves.
Notons que d'après l'administrateur du territoire de Bukama, parmi les blessés, 14 nécessitent une évacuation vers les structures bien équipées qui malheureusement ne sont pas dans sa province. Dans le sud Kivu, des morts, des blessés et des dégâts matériels importants, bilan de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Bukavu mercredi soir. Des personnes et des véhicules sont emportés par les courants d'eau en direction du lac Kivu. Conséquence de l'absence de la politique d'urbanisation de la ville. Emmanuel Elamejo Akabedi nous en parle.
Les principaux dégâts de la pluie sont enregistrés dans la commune de Kadutu. L'avenue industrielle est largement débordée, la rivière Kaoua est inondée. Des camions conteneurs, des véhicules land-cruiser, des tricycles, jeeps ainsi que des motos sont emportés vers le lac Kivu. Des dépôts de farine sont inondés des eaux aux environs de la place dite de l'Indépendance. Ce rond-point était envahi par les eaux, la boue ainsi que les déchets. Une partie du mur du stade de la Concorde de Kadutu s'est écroulée pendant la pluie. Les témoins affirment que les corps des deux personnes, dont une femme, ont été découverts ce jeudi au fond des eaux. Ceci relance maintenant le débat sur la politique d'aménagement de la ville de Bukavu. Des déchets ménagers et autres y sont jetés dans les caniveaux qui sont bouchés, déversant ainsi les eaux de pluie sur la chaussée. Les services d'urbanisme et de l'office de voirie et drainage OVD sont ainsi interpellés. Emmanuel Elamejou Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
À propos justement de cette triste nouvelle, le député national Olive Mudekerez pense que les catastrophes récurrentes à Bukavu devaient interpeller le gouvernement à revoir le plan d'urbanisation et d'aménagement non seulement de cette ville, mais d'autres cités de la RDC à grande agglomération qui présentent des dangers permanents. C'est ce qu'a déclaré l'élu de Walungu ce jeudi à Kinshasa lors d'un point de presse. Et pour le cas de Bukavu, qui mérite une attention particulière selon ce député national, le gouvernement devrait cesser de constater les dégâts. Il doit par contre agir maintenant pour éviter des morts inutiles et autres dégâts matériels. Et puis cette autre nouvelle, vive tension depuis lundi 14 mars 2022 entre le peuple du village Kentale situé dans le territoire de Mouchi et celui de la commune rurale de Nyoki dans le territoire de Koutou. Nous sommes dans la province du Maïndombe. À l'origine, la mort d'un homme de Kentale qui est attribué aux habitants de Nyoki par les siens. La société civile de Nyoki qui alerte ce jeudi dresse un bilan de plusieurs maisons incendiées, des vaches et autres bêtes abattues et des champs saccagés. Ize Bolemo, le président, fait savoir que la population de Nyoki qui travaille à Kentale est retournée vite à Nyoki, fuyant les violences. Il en appelle à la responsabilité des autorités, comme nous le dit Irène Boma.
Tout est parti du décès d'un pêcheur originaire du village Kentale situé à près de 12 km de la commune rurale de Nyoki. Le corps sans vie de cet homme a été retrouvé par les siens dans une ferme près du village Kentale, mais appartenant aux habitants de Nyoki qui y vont pour travailler. Les habitants de Kentale qui attribuent ce décès à ces derniers se sont soulevés pour venger leurs frères. C'est ce qui cause cette vive tension entre ces deux peuples, comme explique ici le président de la société civile de Nyoki, Ize Bolemo.
Bon. La population est arrivée à constater qu'il y a une personne qui a été morte, un pêcheur de nasses dont l'auteur n'a pas été connu. Et la population est venue faire violence en brûlant les fermes voisines, en battant les vaches de la population de Nyoki qui va d'habitude travailler de l'autre côté là. Ils ont coupé les champs de maïs, le champ de manioc.
Il y a des gens qui ont fui la nuit, les autres ont dormi à la forêt en train de fouiller l'équipe qui vient incinérer les maisons.
C'est depuis le lundi, les tensions sont en train de continuer et la population de Nyoki qui est dans la ferme là commence à prendre fuite pour entrer au niveau de Nyoki. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a une forte tension entre les deux populations.
Izebolemo appelle ces deux tribus voisins au calme et à la tolérance et invite les autorités de sécurité de la province de Mai Ndombe à vite intervenir pour mettre fin à cette tension. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité en rapport avec le genre. Plus de 24 000 cas de violence basée sur le genre ont été enregistrés dans la province du Maniema de 2019 à 2021. Ces statistiques ont été présentées hier mercredi par la division provinciale du genre, famille et enfants. C'était lors d'une séance de plaidoyer organisée en faveur des décideurs pour obtenir leur engagement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Régine Kapunga Sifaeo, chef de division du genre, famille et enfants, fait savoir que la prise en charge holistique de toutes ces victimes s'évalue seulement à 9%. Florence Kizalunga, reportage.
Selon ces données statistiques de la division du genre, le territoire de Kabambare occupe la première place avec un total de plus de 5000 cas, suivi du territoire de Pangi qui occupe plus de 3000 cas. La raison de cette séance de plaidoyer est de sensibiliser les décideurs pour mettre fin aux violences basées sur le genre au Maniema. Régine Kapunga Sifayao, chef de division du genre famille et enfants.
Nous avons organisé cette séance de plaidoyer pour demander à toutes les autorités qui ont la décision entre leurs mains de pouvoir s'investir, de pouvoir s'impliquer et de pouvoir prendre la chose au sérieux parce que si nous ne faisons rien, c'est la jeunesse qui périt et l'avenir de notre province est mise en cause.
Le représentant du gouverneur s'est dit choqué par ces chiffres et appelle la justice à faire son travail. Assoumane Mankunku.
Nous avons lancé un appel à toutes les parties prenantes, notamment l'organe judiciaire, les éléments de l'ordre, ainsi que la communauté, que chacun le concernant qui puisse jouer son rôle régalien dans la lutte contre les violences basées sur les genres. Nous interpellons la justice de pouvoir décourager ces gens qui se livrent aux arrangements à l'amiable.
Le gouvernement provincial a réitéré son engagement d'accompagner les femmes dans la lutte contre toute forme de violence dont elles sont victimes. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Au lendemain de l'ouverture officielle de la rentrée parlementaire, l'Assemblée nationale a rendu public un avant-projet du calendrier des matières à débattre au cours de cette session éminemment politique. Plus de 80 matières à examiner sont inscrites sur cet avant-projet de calendrier de la session, dont 22 nouvelles matières et 45 propositions de loi au titre d'arriérés législatifs. La proposition de loi modifiant et complétant la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales est en tête des ces arriérés législatives. Michel Kifindangoy.
Outre la loi électorale dite Lokondo déposée par le G13, la pétition de la révision constitutionnelle, la proposition de loi contre le tribalisme ainsi que le projet de loi de programmation militaire sont parmi les 45 matières d'arriérés législatifs. Il y a également sur le même chapitre la proposition de loi relative à la lutte contre le terrorisme, celle portant organisation du référendum, ainsi que celle relative à l'accès à l'information votée en première lecture au Sénat depuis avant cette législature. Au titre des nouvelles matières, le projet de loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux, ainsi que celui portant code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite des personnes, sont parmi les 22 matières programmées. Au chapitre non législatif, le contrôle parlementaire et budgétaire ainsi que l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du Parlement sont aussi programmés pour examen. L'Assemblée nationale examinera aussi les rapports d'activité des institutions d'appui à la démocratie comme la CENI, le CESAC et la CNDH.
Actualité internationale.
Du Nigeria au Malawi, les pays africains souffrent déjà des retombées économiques de l'invasion russe en Ukraine entre hausse des prix des produits de première nécessité et de ceux du pétrole, faisant craindre une aggravation de la pauvreté dans tout le continent. À plus de $100 le baril, les cours mondiaux de l'or noir ont atteint au début de la guerre leur plus haut niveau depuis 10 ans, augmentant significativement les prix du carburant, notamment au Nigeria où ils ont doublé. Trois semaines après le début de la guerre, les coûts grimpent et avec eux l'inquiétude notamment pour la sécurité alimentaire car l'Ukraine et la Russie sont d'importants fournisseurs de blé et de céréales pour l'Afrique. C'est la patronne de l'Organisation mondiale du commerce qui l'a annoncé mercredi. Un compromis en vue d'une dérogation au droit de la propriété intellectuelle sur les vaccins anti-Covid a été trouvé entre quatre fabricants majeurs. Reste à convaincre les pays membres, a précisé la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, qui évoque des progrès décisifs accomplis par l'Union européenne, les États-Unis, l'Inde et l'Afrique du Sud au sujet sur la question. Si elle est adoptée, la dérogation ne sera applicable qu'aux pays en développement et qu'à ceux représentant moins de 10% des exportations annuelles mondiales des vaccins contre le Covid. La Chine serait donc exclue de l'initiative. L'OMS met la pression face à la reprise des cas de Covid-19.
L'invité.
Plus de 80% des filles et femmes de la province du Maniema ont un problème d'hygiène féminine. Les dernières enquêtes menées par diverses structures dont Enabel dans le cadre de la promotion des bonnes pratiques de l'hygiène et assainissement l'ont prouvé. Pour essayer de renverser la tendance, la fondation Antonia Kindanda sensibilise les filles et femmes concernant l'hygiène féminine et l'utilisation des serviettes hygiéniques lavables. Pour en parler, nous recevons comme invitée Madame Antonia Kindanda, promotrice et présidente de cette fondation. Elle s'entretient avec Florence Kizalunga.
Bonjour Madame Antonia Cox Kindanda.
Bonjour Madame Florence.
Votre fondation se lance dans la sensibilisation de filles et femmes concernant l'hygiène féminine et l'utilisation des serviettes hygiéniques lavables, c'est ça? Et c'est là avec quel message?
Oui, c'est bien ça. C'est ce qu'a entrepris la fondation Antonia Kindanda Kishabongo dans la ville de Kindu et dans la province du Maniema pour aider toutes les femmes à avoir une bonne hygiène menstruelle. Nous leur parlons concrètement de ce que c'est que les règles, pour qu'elles comprennent d'où viennent les règles, pourquoi est-ce qu'elles ont les menstrues, et puis nous leur disons comment est-ce qu'elles peuvent se comporter pendant la période menstruelle et comment est-ce qu'elles peuvent éviter de s'enfermer, parce qu'il y en a qui s'enferment pendant la période menstruelle comme si c'était un drame, pour vraiment essayer de les décomplexer par rapport à leur menstruation.
Pensez-vous que les filles d'Imanima n'ont pas une bonne hygiène menstruelle?
Oui, je pense qu'il y a un problème éducationnel à ce niveau-là. En fait, c'est un peu tabou, c'est même très tabou de parler des périodes des règles, des menstrues. Alors, ce qui fait que, en fait, chacune fait un peu ce qui lui passe par la tête.
C'est sur quelle base qu'est fondée votre affirmation?
Bon, nous avons d'abord quelques études faites par Enabel, qui nous a rapporté un peu le nombre des femmes et des jeunes filles en âge de procréation. Et ensuite, certaines questions ont été posées et c'est suite à ces résultats-là. Mais aussi, nous vivons au milieu de gens, comme je le dis toujours, et nous avons le temps d'écouter. Effectivement, on sait que dans les familles, on n'en parle pas et même à l'école aussi non plus. C'est pas vraiment, on ne va pas très très loin. Et nous avons aussi parfois le constat aussi des écoles où les filles ont souvent l'habitude de s'absenter lors des périodes des règles à cause de ce problème d'hygiène menstruelle.
En termes des chiffres, cela représente combien de pourcents?
Je pense que nous sommes à plus de 80% où il y a un problème encore de l'hygiène menstruelle, parce que même l'utilisation des serviettes jetables n'est pas encore vraiment élevée ici comme c'est partout ailleurs.
Vous ne savez pas qu'avec les serviettes jetables, il se pose un problème de financement?
Oui, quand même, ça coûte quand même cher parce qu'on est peut-être à 2,50 $ par mois si on parle d'un seul paquet à utiliser par mois. Et ça, déjà, ça représente beaucoup. Et puis, certaines peuvent utiliser même plus d'un paquet quand les règles sont très abondantes. Donc, ce qui fait que, voilà, chaque mois, avoir un budget de 5 $ et parfois, les familles, elles sont nombreuses. On peut avoir 3-4 jeunes filles dans une même famille qui ont les menstrues pendant le mois. Et donc, du coup, ça représente un grand budget. Et effectivement, ça pose problème.
Là, vous êtes d'accord, mais en les sensibilisant, qu'est-ce que vous visez?
En fait, nous visons le fait de pouvoir passer à l'utilisation des serviettes hygiéniques lavables, ce qui permettrait de réduire les coûts, parce que l'achat sera unique par jeune fille et ce kit-là de serviettes hygiéniques lavables peut être utilisé à long terme. Économie là-dedans.
Mais madame, vous parlez de l'économie alors que ça aussi, ça s'achète.
Je pense que quand même il y a moyen quand même de se sacrifier, parce que on parle de 8 000 francs pour un kit qui peut être utilisé pendant 2 ans. Donc quand même, il n'y a pas photo. Entre 5000 francs que vous allez renouveler chaque mois, il y a moyen quand même de faire des économies. Et aussi, effectivement, nous voyons aussi, il y a l'apport d'Enabel, notre partenaire, qui est aussi en train d'aider beaucoup par la distribution à travers aussi l'association OAKI.
Les filles sont sensibilisées. Et alors leur maman? Parce que plus haut, vous avez parlé d'un sujet tabou dans nos familles.
Bon, nous pensons aussi que nous allons aussi atteindre les mamans, parce que effectivement les mamans doivent un peu avoir leur langue déliée et pouvoir parler librement aux jeunes filles de ce problème-là.
Pour finir, quelle est l'importance de l'hygiène menstruelle pour une jeune fille?
Je pense que l'hygiène menstruelle est très importante pour une jeune fille, une jeune femme, parce que elle aura à vivre avec ses règles toute sa vie, et donc elle doit bien prendre soin d'elle pendant sa période menstruelle. Et nous savons que les dégâts peuvent être aussi très importants lorsque l'hygiène menstruelle n'est pas respectée. Cela peut engendrer des infections et les infections peuvent engendrer aussi l'infertilité, peut engendrer des problèmes de conception. Et ça peut être très dramatique. Vous le savez, quand une jeune fille, après des temps d'infection et qu'elle commence à avoir le problème de conception, ça peut avoir des très très grands dégâts dans sa vie.
Merci à vous, Madame Antonia.
Je vous en prie. Merci à vous, Madame Florence.
Fidèles auditeurs de Radio Okapi, voilà comment se referme cette édition de journal du soir sur Radio Okapi. Et ce journal vous a été préparé par Élisée Chikota, Alain Irung, Martin Sebujangwe, Pelikipe Lamondo, Jean-Noël Mokonda a assuré la prise des soins et la mise en onde, et Billy Ivan Otumba vous l'a présenté. Nous vous disons une fois de plus merci pour votre attention soutenue.